franceinter.fr.
Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La bibliothèque d'Alexandrie.
500 000 rouleaux étaient nécessaires pour y rassembler les livres de tous les peuples de la terre, de tous les poètes, prosateurs, de tous rhéteurs et sophistes, médecins et devins, historiens et tous les autres encore. Il fallait copier et copier encore.
Dans une ville créée par la volonté d'empire d'Alexandre, les rois Lagides, ses successeurs, voulurent rassembler tout le savoir disponible de leur époque. Les connaissances du monde entier étaient destinées à être happées par cette bibliothèque. Les savants qui lui étaient attachés se chargeaient de les classer, de les corréler, de les prolonger. C'était un des signes de la souveraineté du roi Lagide que de détenir ce trésor de l'humanité. Évidemment, le risque existait d'être imité. Beaucoup de bibliothèques dans le monde hellénistique et romain furent conçues sur le modèle d'Alexandrie. Pergame, en Asie mineure, essaya même de le concurrencer. La crainte principale, néanmoins, c'était la destruction. Dans quelle crise politique ou militaire la bibliothèque a-t-elle pu disparaître? Il est difficile de le déterminer. Dans notre esprit, elle n'a pu que périr par le fer et par le feu. Sans doute a-t-elle aussi décliné peu à peu. Mais c'est difficile pour nous d'admettre cette fin-là, ordinaire et décevante, inconsolable que nous sommes, d'avoir perdu la mère admirable de toutes les bibliothèques. Bonjour à vous, Bernard Legras. Vous êtes vice-président d'une université que vous allez dire excellente.
Elle est tout à fait excellente. Elle a été placée comme première université française par le classement international QS et 13e université mondiale en histoire.
Vous êtes donc à Paris 1.
Je suis bien à Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Vous publiez dans une excellente maison d'édition qui s'appelle Picard. Peut-être pourrait-on donner le titre du livre que vous consacrez à la lecture?
Le livre s'appelle « Le livre Lire en Égypte » d'Alexandre à l'Islam.
Sur la longue durée. Et puis alors, continuons à saluer le travail d'excellentes institutions. La revue Nationale Géographique, dont on voulait parler ici, dans sa spécialité Histoire, ça s'appelle Histoire Nationale Géographique, existe depuis quelques mois.
C'est une revue tout à fait excellente que j'ai découverte, j'ai été associé, j'ai eu la chance de publier dedans. Elle est dirigée par mon collègue de Parisien Francis Johannes et Sylvie Briet. Et c'est une place, c'est une revue qui fait beaucoup de place à l'histoire ancienne et il faut s'en féliciter.
National Geographic, qui est en partenariat avec Le Monde et France Inter, publie aussi des volumes consacrés sous le titre Histoire et civilisation, cet an dernier, à l'Égypte. Alors, ceci posé, nous allons voguer, si vous le voulez bien, Bernard Legras, vers Alexandrie, en compagnie de quelqu'un qui se prenait peut-être pour Alexandre. Enfin, Jules César se prenait pour Alexandre. Est-ce que c'était le cas de Bonaparte? Je ne peux pas l'assurer aussi précisément. Nous sommes en 1798 sur les bateaux de l'expédition française d'Égypte.
L'Égypte? Sûr que je m'en souviens. Je ne sais combien de jours a duré le voyage et mon supplice. Quand quelqu'un cria « La côte est en vue !» Nous étions tous sur le pont, saisis de stupeur. Alexandrie, en effet, était en vue. Le sergent Meret me dit « C'est le patelin là qu'il faut prendre. » Il faisait une chaleur étouffante. L'assaut de la forteresse du phare qui nous causa le plus de difficultés. Mais le gouverneur et ses troupes assiégées ne tardèrent guère à se rendre.
Tu nous donnes soif avec tes sables brûlants et ton soleil torride.
Hé, hey, Marco, un autre pichet de gris.
Voilà, c'est une production qui remonte à la plus haute antiquité de la télévision, signée Jean Image, un patelin, il faut être ignorant, comme un Français de 1798, pour qualifier Alexandrie de patelin, la plus grande cité de l'Antiquité.
C'est vrai que quand Napoléon Bonaparte, qui se prenait effectivement pour Jules César, a pénétré à Alexandrie, c'était une bourgade, c'était une toute petite ville, peut-être 5000 habitants. Hein, la ville n'a retrouvé un éclat important au niveau international que vers 1860 avec Mehmet Ali. Et c'est justement à ce moment-là que les archéologues européens ont commencé à s'intéresser à l'Alexandrie, retrouver ses fondements, retrouver sa géographie, retrouver le plan de la ville.
Alors le plan de la ville, National Geographic, publie en général d'excellentes cartes et de très bons plans, surtout quand c'est vous qui les corrigez. Vous pouvez nous décrire un peu l'espace qu'Alexandre choisit en 333 avant notre ère. Il paraît qu'il trace à la craie, pardonnez-moi de vous évoquer des légendes, le plan.
Oui, il va créer une ville sur un espace qui était identifié comme un lieu important pour le commerce méditerranéen, est-méditerranéen, depuis le 7e siècle, car il y a une île qui s'appelle l'île de Pharos, hein, qui est aujourd'hui rattachée à la ville elle-même, mais qui était un port abrité des vents, un port en eau profonde, hein, qui a permis à des commerçants grecs, dès le 7e siècle, de commencer à travailler avec ce qu'était à l'époque le royaume des pharaons. Et quand Alexandre arrive en 332 sur ce qui va devenir Alexandrie, puisque le village avait un nom, mais nous ne le connaissons pas. Donc quand il va fonder cette première Alexandrie, il y en aura 70 après. Hein, donc il a un lieu qui va devenir la première ville du bassin méditerranéen. Alexandrie la magnifique, Alexandrie la lumineuse, hein, qui va accueillir des immigrants de tout le bassin méditerranéen.
Alors j'ai bien noté mon erreur, 332 et pas 333. Alors, je vous laisse donner la date de la mort d'Alexandre très précisément.
Alors Alexandre meurt en 323.
Et là, ses successeurs vont se disputer son corps et c'est Ptolémée qui va le rapporter à Alexandrie. On sait où est le mausolée d'Alexandre ?
Alors Ptolémée est un malin, hein, il a compris que pour pouvoir devenir le roi, le basileus de l'Égypte grecque, il lui faut une légitimité historique incontestable. Et le fait de capter le corps d'Alexandre, de le voler finalement, et de le placer d'abord à Memphis, puis à Alexandrie, va lui donner cette légitimité historique qui va fonder une dynastie qui va durer 3 siècles jusqu'à la conquête romaine.
Mais alors le mausolée, où est-il ?
Alors le mausolée, nous n'en savons rien du tout. Nous n'avons aucune preuve historique, nous n'avons que des hypothèses. Celle qui me plaît le plus, ce serait de voir dans le tombeau d'Albâtre, qui se trouve aujourd'hui dans le cimetière latin. Rappelons que la présence chrétienne a été très importante à Alexandrie, elle est encore aujourd'hui grâce aux Coptes. Et bien que le tombeau d'Alexandre est peut-être ce tombeau d'Albâtre, qui est un tombeau macédonien incontestable, se trouvant au centre de la cité.
Bah, c'est bien de choisir ce qui plaît finalement. Parce que en ce qui concerne la localisation de la bibliothèque, Chateaubriand, par exemple, bah, il a choisi ce qui lui plaisait. Il a dit qu'il avait arpenté les allées de la bibliothèque, alors qu'un simple Champollion, par exemple, qui était dans l'expédition de Bonaparte, lui, n'avait pas trouvé le lieu.
Chateaubriand a été très imprudent, mais il a écrit un roman, et le roman d'Alexandrie, on continuera à l'écrire après Chateaubriand. Laurence Durel l'a continué, l'a perpétué.
Le Quatuor d'Alexandrie.
Le Quatuor d'Alexandrie, qui est une lecture absolument merveilleuse. Donc, pour ce qui est de la connaissance de la topographie d'Alexandrie, on a vraiment besoin du travail des archéologues d'aujourd'hui. Et il faut vraiment dire très fortement que ce sont les Français, les archéologues français. Il y a deux équipes concurrentes qui nous ont permis, nous, historiens, de connaître cette topographie et de continuer à construire notre histoire.
Connaître la topographie, on ne sait pas où elle est, cette bibliothèque. Et d'ailleurs, ce n'est pas une salle, si ?
Alors, la bibliothèque est dans un bâtiment qui s'appelle le musée, le Museion. On connaît en gros la localisation, hein, mais la localisation exacte nous échappe, car il n'y a pas eu de fouilles scientifiques sérieuses à l'emplacement où cette bibliothèque devait se trouver.
Mais je dis, il n'y a pas de salle. Les rouleaux, parce que les livres sont sur des rouleaux, alors, sont là en rayonnage dans un lieu un peu sacré, non loin des statues, près de la salle du trône.
Alors, il ne faut surtout pas imaginer la bibliothèque d'Alexandrie comme une bibliothèque telle qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une bibliothèque qui soit une salle, qui soit un monument dans lequel il y aurait un mobilier spécifique, des chaises, des tables. Non. La bibliothèque d'Alexandrie, ce sont des livres qui se trouvent dans des niches, et ces niches sont placées sous des portiques, c'est-à-dire sous des colonnes hein, qui sont protégées de la pluie et du vent. Et les lecteurs allaient prendre ces livres dans des niches pour les lire, sans doute dans des allées ombragées, car on sait que dans ce musée, il y avait des allées avec des arbres, avec des sources également. Et ça permettait donc aux lecteurs, à ceux qui avaient accès à cette bibliothèque, de lire les livres en s'asseyant par terre ou sur des tabourets.
Si on arrive à des totaux impressionnants de plusieurs centaines de milliers de rouleaux, c'est parce qu'un livre comporte plusieurs rouleaux, chaque rouleau est étiqueté.
Alors, tous les livres de la bibliothèque, à l'époque hellénistique, à l'époque des Ptolémées, sont des livres en rouleaux de papyrus. Hein. Donc ce sont des rouleaux, comme aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la situation juive, la Torah. Hein. Les Torahs sont en rouleaux et c'est le même principe.
Et la Torah va être traduite, on en parlera dans un instant, à Alexandrie. Alors on a cité le nom de Ptolémée Ier, Soter, voici que lui succède Ptolémée II, Philadelphe.
Celui qui régnait à Alexandrie, Ptolémée le deuxième, appelé le Philadelphe, était ami du bien et de la sagesse. Il prépara une bibliothèque et rassembla tous les livres qui existent sur la terre. Il écrivit une lettre et s'acquit le zèle de tous les rois de la terre, de tous les potentats et les lettrés qui relevaient de son pouvoir, pour qu'il ne se soustrait point à lui acquérir tous les livres scientifiques, artistiques, philosophiques, médicinaux, d'enquête et quelques autres livres que ce soit. On dit que les volumes qu'elle renferme laissent loin derrière eux le chiffre des astres ou des sables du désert. L'homme, qui souhaiterait l'épuiser, y perdrait sa raison et ses yeux non moins téméraires. Ici, la grande mémoire des siècles qui furent les épées, les héros, les symboles laconiques de l'algèbre, le savoir qui sonde les planètes, qui gouverne le destin, les vertus des plantes et des ivoires talismans, le poème où la caresse est perpétuée, la science qui déchiffre le solitaire labyrinthe de Dieu, la théologie, l'alchimie qui dans la boue cherche l'or et les simulacres de l'idolâtre.
Outon aidon eschato alla okneome tinme la Christota.
On a mis un peu de grec, comme dans le cabinet de curiosité, l'émission de France Culture d'Emmanuel Hirsch, dont est tiré cet extrait, parce que tout passait par le filtre du grec, un peu comme dans un centre de calcul des années 1970, si je peux oser le rapprochement, tout passait par le langage informatique.
Le rapprochement est excellent. Le but des bibliothécaires, c'est de rassembler à Alexandrie la mémoire du monde, toutes les connaissances du monde, en traduisant en grec ce qui est écrit dans les langues dites barbares, ce qui est écrit en hébreu, ce qui était écrit en acadien, ce qui était écrit en égyptien, bien entendu.
Alors, l'hébreu, la Bible d'Alexandrie.
Alors, la Bible d'Alexandrie, c'est une Bible qui a été traduite à Alexandrie. La Bible existait, préexistait, la Bible hébraïque. Il existe une très importante communauté juive à Alexandrie, de culture grecque. On considère qu'il y avait 400 000 habitants à Alexandrie et que peut-être 30 à 40% étaient juifs. Mais des juifs qui viennent de Palestine, mais qui, arrivant dans le royaume des Ptolémées, arrivant à Alexandrie, ont accompli un transfert culturel au niveau linguistique. Ils ont appris le grec et leur conversation quotidienne et leur langue de culture est désormais le grec. Donc ce sont des hellénophones et il leur fallait absolument disposer d'un texte sacré, disposer de la Bible dans la langue qu'il comprenait, qu'il pouvait entendre, d'où la traduction.
Tout à l'heure, on entendait dans l'extrait l'appel que Ptolémée lançait aux potentats, aux lettrés, aux souverains. L'obtention se fait aussi par une véritable chasse aux livres.
Le terme de chasse aux livres est excellent. Les Ptolémées ont acheté des livres, ont cherché à se faire prêter des livres également, mais il y a l'utilisation de moyens, disons, contestables. En particulier, la confiscation de tous les livres sur les bateaux rentrant dans le port d'Alexandrie. Le port d'Alexandrie, premier port méditerranéen, peut-être le premier port mondial de l'époque. Les gens qui rentraient dans le port d'Alexandrie avaient des ouvrages et ces livres étaient purement et simplement confisqués.
Je croyais qu'on les copiait et qu'on rendait aux possesseurs des livres sur les bateaux. Ça s'appelait le fond des navires.
C'est le fond des navires. Alors, c'est plus subtil.
Des copies.
En fait, on gardait l'original et on rendait la copie au propriétaire.
Ah ben, vous voyez, c'est à demi contestable seulement. Et les savants qui sont là, on les rapte aussi ?
Ah, on les invite, on les séduit, on leur fait des ponts d'or. Hein, ouais. Les savants qui viennent de toute la terre, hein, sont à la fois nourris par le trésor royal, donc on leur donne à manger, on les loge, et puis ils bénéficient d'un privilège auquel tous les Français et tous les Européens sont sensibles, c'est l'exonération fiscale. Ils ne payent pas d'impôts au fisc.
Alors donc un certain nombre de ces savants, leur nom a survécu, Démétrius, un des fondateurs, enfin, qui avait d'abord été gouverneur d'Athènes.
C'est ça, Démétrios de Phalère, qui est donc un Athénien, un personnage tout à fait intéressant, un homme politique, un historien, un philosophe, donc un homme d'État intellectuel, donc venu à Alexandrie, et il a importé à Alexandrie le modèle de la bibliothèque, qui est le lycée fondé par Aristote, le philosophe Aristote, Aristote qui fonde ce lycée en 335 et qui avait déjà une collection de livres tout à fait importante, mais là il s'agissait d'une collection privée, c'était la propriété d'Aristote, puis de ses successeurs, alors que le fonds de la bibliothèque d'Alexandrie est la propriété du roi, c'est une bibliothèque royale.
Alors on pourrait citer d'autres noms, Démétrius a fini par être écarté, il a été tué par un serpent, hein, parce qu'il protège les souverains, les savants, mais ils peuvent leur envoyer des serpents venimeux quand ils en sont mécontents.
Oui, Démétrius, intellectuel engagé, a fait le mauvais choix pour la succession de Ptolémée II. Au lieu de choisir l'aîné, Ptolémée II a choisi le cadet. Et donc Démétrius s'est trouvé du mauvais côté. Et donc on lui a envoyé un petit serpent pour le piquer.
Alors on pourrait citer beaucoup d'autres noms. Je disais Zénodote, Apollonius, Aristophane de Byzance, Callimaque. Zététès, alors c'est un savant. On le voit ici, apostrophé par, encore un superbe nom, Ératosthène de Cyrène. La Cyrénaïque, ça fait partie du royaume
latin. La Cyrénaïque fait partie de l'empire des Ptolémées à cette époque-là.
Nous sommes en 230 avant notre ère.
Et voici, ô Zététès, comment je m'y suis pris pour mesurer le tour de la Terre.
C'est Ératosthène, astronome d'Alexandrie.
La Terre, ô Zététès, n'apparaît-elle pas ronde pendant les éclipses, quand elle projette son ombre sur la Lune?
Assurément.
Et la ville de Sienne, en Égypte, n'est-elle pas située sur le tropique?
Sans doute.
Eh bien, ô Zététès, si cette ville est sur le tropique, le soleil n'y donne aucune ombre à midi, le jour du solstice d'été. Le même jour, à la même heure, je mesure à Alexandrie la longueur de l'ombre du grand obélisque.
Et c'est ainsi qu'Ératosthène, astronome d'Alexandrie, ayant trouvé que la différence de latitude entre Sienne et Alexandrie est égale à 1/50 de cercle, donna comme périmètre de la Terre le chiffre de 250 000 stades.
Et comme c'est une émission de France Culture, la traduction des stades en kilomètres est donnée, 39 375 kilomètres. Je croyais, Bernard Legras, que Alexandrie était plutôt une ville récapitulatrice qu'une ville innovatrice en matière scientifique.
Le principe des philologues, c'est-à-dire des savants, qui travaille à la bibliothèque d'Alexandrie, c'est d'une part de rassembler tout le savoir existant, donc de thésauriser, pour créer. Donc c'est une vision créatrice, il s'agit d'innover, il s'agit véritablement de faire d'Alexandrie un lieu qui est à la fois notre bibliothèque nationale de France, mais qui est également le mythe américain, qui est également un lieu qui va, sur le plan de la littérature, sur le plan de la science, et même des sciences dures, être un lieu qui va apporter.
Et vous faites le rapprochement avec la BNF. La BNF de Dominique Perrault et François Mitterrand imite la bibliothèque d'Alexandrie en ce sens qu'il y a deux bibliothèques. Il faut dire ça, il y a deux bibliothèques bientôt au bout d'un moment à Alexandrie. La bibliothèque Haute-Jardin et l'autre, Red-Jardin.
Le parallèle est excellent.
Merci de souligner l'excellence.
À Alexandrie, il y a deux grandes bibliothèques, la bibliothèque mère et la bibliothèque fille, la bibliothèque du musée d'Alexandrie, qui est la mère, et la fille, qui est la bibliothèque sise dans un temple, le temple de Sarapis, le Sarapieion, bibliothèque fille. De même, en effet, à la BNF, on a la bibliothèque Haute-Jardin pour le grand public, et la bibliothèque Red-Jardin, qui est pour les chercheurs qui ont pu montrer une carte leur donnant accès à cette bibliothèque très réservée.
Une carte d'excellence. Puisqu'on parle de Mitterrand, parlons de Moubarak. Tout à l'heure, on va entrer dans la dernière partie de l'émission, dans la réflexion sur le cycle des destructions et le rêve de reconstruction. Le président Moubarak avait inauguré en grande pompe un nouveau bâtiment pour la bibliothèque il y a une douzaine d'années, en présence de nombre de chefs d'État. François Mitterrand n'était déjà plus là, mais Jacques Chirac était là. Le chanteur Ahmed Jamal était là pour le parterre des chefs d'État.
Ana al-Masri
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Bernard Legras, ses applaudissements, c'est pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, aussi pour la revue nationale géographique qu'on pourrait qualifier de...
On pourrait qualifier de revue
excellente.
D'excellence
voilà.
Pour public cultivé et de grand raffinement.
Un article de Bernard Legras dans le dernier numéro de ce mensuel consacré donc à la bibliothèque. Alors avant de parler de son hypothétique résurrection, il faut quand même faire défiler les hypothèses concernant sa destruction. Nous sommes maintenant arrivés au 1er siècle avant notre ère. Les royaumes hellénistiques ont presque tous disparu, sauf le royaume lagide et l'ombre portée de Rome grandit.
Oui, c'est l'impérialisme romain, c'est la conquête par Rome de l'ensemble du bassin méditerranéen. Cette conquête qui s'achèvera en 31 avec l'annexion de l'Égypte qui deviendra une province romaine.
Ne brûlons pas, si je puis dire, les étapes, Bernard Legras. Il faut faire sa place à Cléopâtre. Il paraît que vous préparez un livre sur Cléopâtre.
Oui, je prépare un livre sur Cléopâtre qui paraîtra dans quelques années.
Oui, alors il est fondé sur l'égyptologie, la papyrologie, votre livre. Nous, on a ce qu'on peut. Hein. On a un produit munificent, aussi coûteux que la bibliothèque d'Alexandrie. C'est le film de Mankiewicz. Nous sommes en 47 avant notre ère. César s'est rapproché de Cléopâtre, c'est l'arbitre des successions des Lagides César, mais un méchant complot de courtisans, une révolte des Alexandrins l'assiège dans le palais où il est avec Cléopâtre et assiégé, il se bat comme un assiégeant.
Les navires de guerre égyptiens dans le port de l'Ouest ont embarqué des hommes et des armes toute la journée.
Quand seront-ils prêts à nous livrer bataille?
Demain matin, grâce au vent de l'aube.
Brûlez cette nuit.
Mais leurs navires sont entassés tout le long du quai. L'incendie pourrait s'étendre à toute la ville.
Espérons que non.
Les Romains, ils ont incendié la flotte égyptienne. Venez voir l'incendie, il s'est étendu dans la cité.
La cité?
Pas à toute la ville, hein, quelques maisons seulement, mais la bibliothèque est en feu.
Nous avons été contraints de brûler la flotte égyptienne.
Pourtant, en général, les navires sont dans les ports. Avez-vous été contraints de les brûler dans les rues de la cité?
Des navires marchands ont pris feu. Les mâts, en brûlant, sont tombés sur quelques maisons.
Dont une était la grande bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, on vient de me le dire, j'en suis vraiment désolé.
Tais-toi du génie romain de la destruction. Démolis les pyramides, rase les cités. Comment oses-tu, toi et tous tes barbares, mettre le feu à ma bibliothèque? Tu peux jouer les conquérants tant que tu veux, puissant César. Viole, tue, pille, anéantis des millions de vies humaines. Mais ni toi, ni aucun autre de tes barbares n'a le droit de détruire une seule pensée humaine.
Colère de Cléopâtre et encore n'a-t-on que la doublure, la voix française de Liz Taylor. Alors évidemment, vous allez peut-être corriger cette hypothèse qui apparaît dans certaines sources de l'époque, mais pas dans toutes, de la destruction en 47 avant notre ère.
Le travail de l'historien, c'est de critiquer les sources.
Ouais.
Or, celui qui a écrit le script pour la Cléopâtre hollywoodienne s'est fondé sur certaines sources qui, en effet, nous parlent en 47 avant notre ère d'une destruction par le feu. Destruction involontaire par les troupes de César. Mais d'autres sources, qui n'ont pas été retenues par l'auteur du script, nous disent très clairement que ce qui a brûlé en 47 avant notre ère, ce n'est pas la grande bibliothèque, mais des dépôts de livres et de blé dans le port d'Alexandrie. Donc des entrepôts pour exporter le papyrus vers l'ensemble du bassin méditerranéen.
Alors d'autres hypothèses existent. une date importante, c'est autour de 270. La reine de Palmyre, à un moment, conquis Alexandrie. Aurélien, l'empereur de Rome, finit par la vaincre. Ça, c'est une hypothèse sérieuse.
Alors, c'est une hypothèse intéressante, car les sources anciennes, là encore, nous disent que les troupes de Zénobie de Palmyre ont causé des destructions sur le territoire égyptien. Pourquoi pas la bibliothèque d'Alexandrie ? Mais ce n'est pas certain.
391, c'est la montée du christianisme qui devient religion officielle et l'empereur Théodose interdit les cultes païens. C'est fâcheux pour le Sérapéum, c'est-à-dire la bibliothèque grand public.
Alors la bibliothèque grand public, d'après certaines sources, aurait en effet été détruite, bâtiment et papyrus, en 392 par l'évêque Théophile pour détruire ce qui était un temple païen.
Oui, parce que la cristallisation passe par le livre, mais hélas aussi par les bûchers, on dérige pour les livres.
Il y a des bûchers, il y a des destructions, on détruit la culture des autres religions.
Alors là, c'est une hypothèse défendue, puisque vous parlez de film, par Agora, qui est consacré au personnage de la fille du dernier gardien de la bibliothèque, la fameuse
Hypatie.
Hypatie, qui est déjà une philosophe laïque, à croire le script du film. Et puis, c'est très idéologique, toutes ces hypothèses 640... Là, alors, ce sont les méchants arabes.
Alors, ce sont les arabes là, qui conquièrent Alexandrie. C'est la conquête arabo-musulmane. Et là, un auteur arabe, hein, donc arabe-musulman, du XIIe siècle, nous dit que le conquérant, Amr, aurait donné l'ordre de détruire tous les livres de la bibliothèque et de les brûler dans les bains de la ville.
Posant quand même une bonne question, ce conquérant arabe, et demandant à un vieil érudit chrétien dissident, Jean Philopon, mais c'est quoi ces livres ? C'était quoi les livres en 640 ?
Alors les livres en 640, il y a à la fois des rouleaux de papyrus, c'est le livre ancien qui existait de manière exclusive à l'époque ptolémaïque, mais il y a également désormais des parchemins en codex, c'est-à-dire le livre moderne, le livre à pages, qui est apparu au 1er siècle de notre ère et qui a peu à peu remplacé le livre en rouleau de papyrus.
Et donc l'arabe aurait dit, si ce sont des livres récents, il y a deux hypothèses, ils sont, toujours la légende, en accord avec le nom d'Allah, alors on peut les détruire puisqu'on a le Coran, ou en désaccord avec le nom d'Allah, alors ils ne sont pas garder. L'autre hypothèse, c'est celle du déclin lent.
Alors, il n'est pas impossible non plus que les livres aient été pillés, volés, transférés dans d'autres bibliothèques prestigieuses de l'époque, à Rome, puis à Constantinople, voire dans des bibliothèques de particuliers.
Alors, un projet naît, patronné par l'UNESCO, à la fin du millénaire précédent, et qui va donner lieu à une inauguration au début de ce millénaire. Tout ça nous paraît bien lointain, parce que l'Égypte a changé, archives, années 90.
Pour du beau monde, il y avait du beau monde. Un président de la République française, un président de la République égyptienne, une reine d'Espagne, une princesse de Monaco, une reine de Jordanie, un cheikh d'Abu Dhabi, un prince saoudien. La renaissance de la bibliothèque d'Alexandrie mobilise décidément dans le monde entier. Il faut dire que le défi est d'envergure. Un projet ambitieux. C'est l'UNESCO qui coordonne l'ensemble.
Ça, c'est un exemple de construction. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est aussi un exemple de faire face à l'avenir tous ensemble, avec la construction sur la culture.
Reste à trouver le financement. Coût de l'opération, 900 millions de francs. Les Émirats arabes unis ont déjà donné 120 millions. Le travail n'est pas terminé.
Mais l'inauguration a eu lieu en 2002. Moi, j'ai souvent pensé que c'était un peu de la poudre aux yeux.
Alors, cette bibliothèque aurait pu être telle. Mais en fait, le bâtiment qui a été construit est un bâtiment magnifique, donc qui restera dans l'architecture moderne. C'est une équipe d'architectes norvégiens qui ont réalisé cette œuvre.
Mais le contenu, Bernard Legras ?
Alors, le contenu est important. C'est un contenu de millions de livres pour le moment. La bibliothèque est ouverte, 2000 places de lecture. C'est considérable, c'est la plus grande bibliothèque d'Égypte, 2000 places, c'est la plus grande bibliothèque de lecture au monde. Et d'autre part, la francophonie joue un rôle important.
Trois langues.
L'arabe, l'anglais, le français.
C'est un peu comme National Geographic qui est une revue excellente. Hein.
C'est une revue tout à fait excellente.
Et qui paraît souvent en plusieurs langues, et l'édition française depuis quelques mois. Merci infiniment, Bernard Legras, d'avoir contribué à cette revue, d'être aussi venu parmi nous. Et puis, bienvenue pour un prochain rendez-vous sur Cléopâtre. Dans quelques temps, l'émission a été réalisée par Jacques Sigal. préparé par Franck Olivard, avec aujourd'hui à la technique Elisabeth Collet. Demain, nous parlons du chien.